Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, l'autorité maritime iranienne a confirmé aujourd'hui la fermeture totale du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, en riposte aux frappes menées par les États-Unis dans la nuit. Et c'est parti pour le Mondial 2026. La compétition ouvre ses portes aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec un premier match aujourd'hui entre le Mexique et l'Afrique du Sud à Mexico. Il a été l'un des premiers à raconter l'histoire des immigrés en France. L'écrivain et cinéaste franco-algérien Mehdi Charef est décédé. Il aura consacré sa vie à raconter l'exil, le racisme, les banlieues et les bidonvilles. Et c'est parti pour le Mondial 2026. La compétition ouvre ses portes aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec un premier match aujourd'hui entre le Mexique, l'un des trois pays hôtes, et l'Afrique du Sud au stade mythique d'Azteca de Mexico. Cette compétition est censée être une grande fête du football, mais elle est déjà marquée par plusieurs controverses, difficultés d'obtention de visa pour certains supporters, inquiétude autour des politiques migratoires américaines, prix élevé des billets. Le journaliste sportif Franck Orokoti, directeur général d'Africa Top Sport, revient dessus.
La politique a pris une grande place dans les informations de ce mondial. Normalement, cette compétition devait être une fête mondiale, puisque pratiquement ce sont tous les pays du monde qui se retrouvent. Et que c'est également une première fois que nous allons assister à cette compétition avec un 8. Et pour une première également, abritée par trois nations. Malheureusement, cette compétition est déjà entachée par les problèmes de visa, au niveau des supporters, au niveau des encadrements techniques, d'autres problèmes techniques qui viennent entacher justement l'image de cette compétition.
Et pas uniquement technique, hein, d'ailleurs. Hein, les joueurs sénégalais fouillaient sur le tarmac. Cela a choqué l'opinion.
Oui, toute l'Afrique n'était pas contente par rapport donc à ces actes posés au niveau donc des États-Unis, parce que ces joueurs sénégalais ont été fouillés jusqu'aux os. C'est ce que nous disons ici donc en Afrique. Pourquoi justement ces joueurs sénégalais? Alors que déjà, il y avait une polémique à la finale de la CAN dernière, Sénégal-Maroc, et c'est justement ce Sénégal qui a été traité de cette façon, ce que nous condamnons justement avec beaucoup plus de rigueur. Ce qui n'est pas normal, c'est nous pensons que ces actes posés par les Américains, fouillés, les Sénégalais jusqu'au saut, n'était pas bien pour l'image de cette compétition.
Franck Orokoti, journaliste sportif et directeur général d'Africa Top Sport au Togo, au micro de François-Xavier de Calonne. Et le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a dit espérer hier que le président algérien accorde une grâce au journaliste sportif français Christophe Glaise, puisse venir. Il a reçu une accréditation. Direction le Moyen-Orient maintenant. Nous l'avons appris il y a quelques minutes seulement, l'autorité maritime iranienne a confirmé aujourd'hui la fermeture totale du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, après une annonce ce sens de l'armée en riposte aux frappes menées par les États-Unis dans la nuit. Et le cessez-le-feu entré en vigueur entre Téhéran et Washington le 8 avril n'a quasiment plus de sens, a annoncé la diplomatie iranienne après cette nuit de bombardements américains. Les frappes ont principalement ciblé le sud de l'Iran, mais des sites proches de la capitale ont également été touchés. L'armée jordanienne a de son côté annoncé avoir abattu 20 missiles iraniens. L'Arabie Saoudite a condamné les agressions iraniennes contre la Jordanie, le Bahreïn, le Koweït hier, tout en appelant à la poursuite de la médiation pakistanaise et a salué le rôle joué par le Qatar pour soutenir les négociations. Emmanuel Macron a annoncé hier la présence de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais aussi des Émirats Arabes Unis au G7 pour parler de cette guerre, de la question à la fois d'Ormuz et les négociations sur l'Iran et l'énergie. Je vous laisse écouter Emmanuel Macron.
On aura ensuite une séance de travail où on associera au G7 l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis pour parler de la guerre, de la guerre d'Ormuz et négociations sur l'Iran et de l'énergie avec un vrai impact pour nos économies. Donc c'est très important et c'est justement de trouver des voies et moyens de coopération.
Le président français Emmanuel Macron. Et dans l'actualité en France, plusieurs jours après la mort de Liana, 11 ans dans le Gers, l'émotion reste forte dans le pays. La procureure générale près de la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequeo, reconnaît que la justice doit rendre des comptes. Elle était invitée chez nos confrères de BFM TV ce matin.
Nous devons la vérité aux Français et nous devons la regarder en face. Le garde des Sceaux a mandaté une inspection. Le rapport est attendu dans les 15 jours. Nous en tirerons ensuite les enseignements. Mais je pense que si nous voulons recréer le lien de confiance qui est très altéré entre les Français et la justice, nous devons effectivement rendre des comptes aux Français sur la manière dont ce dossier a été traité.
Marie-Suzanne Lequeo, procureure générale près de la cour d'appel de Paris. Autre affaire judiciaire, le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été mis en examen et ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre hier soir. Il échappe donc à la détention provisoire que le parquet avait requise. Je vous laisse écouter son avocate Fanny Collin.
Les quatre juges d'instruction saisis ont refusé de solliciter la détention provisoire de M. Patrick Bruel et l'ont placé sous contrôle judiciaire. À l'instant, le juge de liberté et de la détention a lui-même confirmé le placement sous contrôle judiciaire et a rejeté la demande de détention provisoire qui avait été formée par le parquet du procureur de la République. L'instruction débute, les investigations également, et M. Patrick Bruel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires.
Fanny Collin, avocate du chanteur et acteur Patrick Bruel. On va parler maintenant de la disparition d'un grand écrivain et cinéaste franco-algérien, Mehdi Sharef, connu notamment pour son film Le Théorème d'Archimède. Il a été l'un des premiers à raconter l'histoire des immigrés en France et a consacré sa vie à raconter l'exil, le racisme, les banlieues et les bidonvilles. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 73 ans. L'écrivain et poète algérien Anouar Ben Malek regrette une trop faible mise en lumière et une forme d'assignation de l'auteur.
Cette assignation, je veux dire, tu es un écrivain et un cinéaste des banlieues et tu restes en ton coin. Alors que non, ce qu'il faisait nous touchait tous, quelles que soient nos origines, etc. Il parlait de l'humanité, cette humanité, mais vraiment sans jamais forcer le trait. Voilà, s'il y avait un mot pour le... C'est tendresse, un peu d'ironie, une profonde humanité. C'est un mot qui, pour certains, est presque une insulte maintenant. Mais voilà, c'est de l'amitié que je ressens pour lui. Quand vous m'avez annoncé la nouvelle, ça m'a vraiment touché. Ce n'était pas pour moi une nouvelle simplement littéraire, non. C'était la disparition de quelqu'un dont la France a besoin. Voilà, dont la France a besoin. Et dont l'Algérie également, d'ailleurs, a besoin. Ces gens qui font le lien sans acrimonie, mais sans oublier.
Pourquoi ces deux pays en ont besoin?
Parce qu'ils représentent le lien que l'histoire, avec un grand H et une H d'ailleurs, a créé. Quoi que puissent vouloir les uns et les autres, l'Algérie et la France sont liées par l'histoire. C'est une histoire terrible. Et jusqu'à maintenant, cette histoire-là n'a pas été soldée. Vous le voyez, l'Algérie redevient maintenant un enjeu des luttes électorales. C'est triste pour l'Algérie, c'est triste pour la France. C'est d'ailleurs, moi personnellement, je vous le dis franchement, c'est la première fois que je me sens touché dans cette volonté de rejeter tout ce qui a un lien avec l'Algérie hors de France. Et je pense que quelqu'un comme Mehdi Sharef a dû le ressentir très fortement. Je veux dire, c'est triste. Mehdi Sharef aurait, par exemple, été nécessaire pendant cette période-là où l'intolérance devient presque un argument de conquête électorale. Voilà, c'est triste.
Anouar Ben Malek, écrivain. Et on l'a appris aujourd'hui, le navigateur Charlie Dalin, le dernier vainqueur du Vendée Globe, est mort à 42 ans, des suites d'un cancer. Et enfin, à Fontainebleau, la 15e édition du Festival de l'Histoire de l'Art, qui s'est tenue du 5 au 7 juin, a une nouvelle fois réuni des chercheurs, conservateurs, artistes et grand public. Un rendez-vous devenu incontournable qui interroge chaque année notre rapport à l'art et à l'histoire. Cette édition mettait la mode à l'honneur et invitait pour la première première fois un pays africain, le Maroc. Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau, revient sur les raisons de ce choix.
Il nous a semblé très important de pouvoir disposer avec le Maroc d'une approche très ouverte pour démontrer que l'histoire de l'art ne s'écrit pas uniquement en Europe, mais au contraire englobe bien d'autres pôles de civilisation dans le monde, et en même temps la proximité culturelle entre le Maroc et la France, cette compréhension mutuelle nous apparaissait comme une possibilité d'ouvrir une passerelle à la fois extraordinaire et en même temps plus aisée pour pouvoir justement découvrir les aspects nouveaux qui seraient mis à l'honneur à travers le rapport au continent africain et à toutes les civilisations que le Maroc abrite sur ces terres.
D'ailleurs, à juste titre, vous rappelez dans le programme que les liens entre Fontainebleau et le Maroc remontent loin, jusqu'à François Ier et au premier contact diplomatique avec le royaume en 1533. Est-ce que cette profondeur historique a pesé dans la manière de penser cette invitation marocaine ?
C'est certain que le fait d'avoir des liens très étroits, et aussi que Fontainebleau soit un espace où l'histoire diplomatique d'une partie du monde a pu s'écrire à travers des grandes ambassades, des contacts importants, est aussi une manière de montrer que le patrimoine dans ses différentes dimensions a toujours un axe à la fois de générosité et d'ouverture internationale. Et donc, on a été très heureux de pouvoir le célébrer avec le Maroc.
Marie-Christine Labourdette, présidente du château de Fontainebleau, au micro de Nadia Bencher. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.